Bonjour à tous, excusez-nous, nous arrivons un petit peu en retard. On est parti tôt ce matin d'Avignon et on est très heureux de passer ce temps avec vous d'intercession, de prière pour nous, pour nos enfants particulièrement. Donc c'est une grande joie pour nous d'être là. En deux minutes, vous dire que je crois que le Père nous a brièvement présenté hier. Donc vous dire simplement que nous sommes mariés depuis 25 ans. Nous avons eu l'immense grâce de participer à la fondation de l'école Jeunesse Lumière avec le père Daniel Ange il y a donc 23 ans, 24 ans. Et nous avons 5 enfants entre 14 et 22 ans avec l'immense action de grâce de voir qu'au fil des années, les uns et les autres ont vraiment rencontré Jésus vivant dans leur vie qui a transformé leur cœur. Et aujourd'hui vraiment, ils ont donné leur vie à Jésus. Même notre petite Laetitia de 14 ans. Et c'est une grande joie de voir combien le Seigneur transforme leur vie, transforme nos vies et transforme en profondeur notre vie de famille. Et nous voulons avec vous passer ces... On a 1h15, on essaiera de prendre une petite pause ou deux petites pauses de prière pendant ce temps ensemble. Mais nous voulons... Notre désir profond cet après-midi... Si vous êtes là aujourd'hui, c'est particulièrement pour votre couple, mais encore plus peut-être pour vos enfants, ou pour tel ou tel enfant. Or, qu'est-ce que nos enfants? Qu'est-ce que votre enfant? Votre enfant, c'est le fruit d'une seule chair. Très particulièrement. De manière très précise, incarnée. C'est le fruit d'une alliance. Pour la majorité d'entre nous, cette alliance est liée dans le sacrement de mariage. Pour d'autres, ce n'est pas dans le sacrement. Et certains vivent des situations au niveau conjugal qui sont douloureuses. Mais ils s'inscrivent pour tous dans cette expérience fondamentale d'une seule chair en raison de nos enfants. Et donc, dans la démarche que nous faisons de demande de guérison, d'une vraie, on pourrait dire, thérapie du Seigneur dans nos vies, dans nos cœurs, dans cette foi qui fait que nous sommes ici aujourd'hui, il nous a paru très important avec le Père d'essayer d'approfondir ce qui fait notre une seule chair. Pourquoi je reprends ce terme d'une seule chair? Ce n'est pas notre choix, c'est le choix de Jésus lui-même. Parce que quand dans l'Évangile, Jésus discute avec les pharisiens et puis après avec les apôtres, par rapport aux questions du divorce, la séparation, etc., la difficulté pour un homme et une femme de s'aimer, il renvoie à une expérience fondamentale qui est l'expérience de la Genèse et des origines. Non pas les origines historiques, mais la Genèse révèle l'appel éternel sur tout couple de toute éternité. Dans la mesure où ce n'était pas déformé par le péché. Après, bien sûr, on peut regarder comment le péché a déformé cela. Mais génétiquement, pourrait-on dire, est inscrit le dessein éternel pour tout couple à la Genèse. Et donc c'est essentiel pour nous, pour retrouver le sens de notre mariage, nous retrouvons le sens de notre une seule chair. Et au travers, on retrouve le sens de notre une seule chair, c'est notre communion conjugale, mais c'est aussi le fruit de notre communion conjugale, c'est-à-dire nos enfants. Nous savons combien le péché originel, mais notre péché aussi personnel, va venir déformer notre communion, notre amour, notre unité. Et donc indirectement par des chemins pour nous inconnus, parfois un peu connus, mais très souvent inconnus, aussi ça atteint nos enfants. Et donc combien il y a dans le sacrement de mariage, il y a vraiment ce mystère, tout le mystère de l'Église. On parle le temps de développer, mais saint Paul le précise combien tout le mystère de l'Église et du corps du Christ est finalement dans le mystère du mariage et de la famille. Donc, que soit touché et galvaudé, brisé notre une seule chair, c'est aussi les fruits de notre une chair qui aussi sont biaisés et qui vont mal. Si nous accueillons véritablement le salut et la bonne nouvelle du Christ au cœur de notre couple, non seulement c'est une bonne nouvelle pour nous en tant qu'hommes et femmes, mais aussi c'est une bonne nouvelle indirectement, spirituellement, parce que nous formons un seul corps dans cette église domestique que nous formons avec nos enfants. C'est Paul VI qui disait « Toute la théologie de l'église s'applique à la théologie de l'église, à la réalité de l'église domestique qui est la famille. » Et donc, ce qui est important pour nous, en cet après-midi, ce n'est pas de faire une belle conférence. Si jamais c'est ça, alors on a raté notre après-midi et vous avez perdu votre temps. Ce qui est important pour nous, c'est d'essayer d'accueillir combien était immense, profonde, efficace, transformante la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans notre couple. Et combien si ce week-end, nous l'accueillons davantage en plénitude, c'est d'abord pour le bénéfice de chacun de nous en tant que conjoint, en tant qu'homme ou en tant que femme, mais c'est pour le bénéfice de nos enfants. Car la conversion et la guérison de nos enfants passent également par la conversion et la guérison de notre propre couple. Passent aussi par la guérison de notre propre baptême, dans le sens de la fructification de notre baptême, où trop souvent, nous ne l'accueillons pas pour ce qu'il est. Trop souvent, on est dans une vie saupoudrée de valeurs chrétiennes. C'est tellement loin de la réalité du salut de Jésus-Christ que nous accueillons dans nos vies. Jésus est venu nous transformer, nous donner une vie nouvelle. Ce n'est pas une image, ce n'est pas de la poésie. C'est une réalité la plus concrète qui soit, même si elle est spirituelle.
Alors on a bien conscience que dans tout ce qu'on va évoquer, peut-être on va réveiller chez l'un ou l'autre des souffrances, des blessures. À l'avance, on vous demande pardon, parce que ce n'est pas notre intention. Mais parfois, il y a des paroles qui portent du fruit aussi à travers la blessure. Donc on va demander à l'Esprit-Saint de faire en sorte que si nos paroles sont maladroites, le Seigneur rattrape nos erreurs pour en faire une bénédiction pour vous. Donc sachez simplement tout ce qu'on va dire là maintenant. On le dit parce que nous sommes les premiers à en vivre. On ne dit les choses de Dieu que lorsqu'on les vit soi-même. Il est bien évident que tout ce qu'on a expérimenté nous-mêmes, c'est pour cela qu'on en témoigne aujourd'hui. C'est parce que nous sommes, comme diraient nos enfants, la preuve par mille que Dieu existe. Sinon, on ne serait jamais restés ensemble. Ils nous le disent tout le temps. Vous êtes la preuve du miracle de Dieu pour nous. Donc cette preuve-là, si nous, on peut le vivre, elle est donnée à tous. Parce que c'est une des forces de l'évangile, c'est que soit il est vrai pour tous, soit il est vrai pour personne. Donc la bonne nouvelle, elle s'adresse à tout homme et toute femme, quel qu'il soit, quelle que soit sa situation, quelle que soit son histoire. Et ce qu'on a découvert, nous, dans notre vie de couple et dans la vie avec le Seigneur, c'est à quel point il nous crée libres, comme disait le Père ce matin. Il nous fait être libres. Et l'amour du conjoint l'un pour l'autre est une thérapie extraordinaire. Une guérison de tellement et tellement de blessures, à condition qu'on laisse l'Esprit Saint agir à travers notre conjoint et dans notre couple. Et c'est ça qu'on veut reprendre avec vous, parce qu'on a été, nous, les premiers à nous cogner à l'incroyable souffrance que consiste le fait que quand on aime son conjoint plus que tout, qu'on est prêt à partir au bout du monde avec lui et que c'est le rêve de sa vie, et ben on découvre que c'est la personne qu'on blesse le plus au monde. Et on découvre que c'est lui qui nous blesse le plus. Et ça, c'est la tragédie de nos histoires de couple qui fait que tous, nous souffrons de la souffrance que nous créons à celui que nous aimons le plus ou que lui nous crée, alors que c'est là qu'on voulait vivre le plus grand amour. Et ça, il n'y a pas besoin de schéma. Vous savez tous ce qu'on veut dire quand on parle de cette souffrance-là. Parce que tous, c'est comme une écharpe dans notre chair. Ça fait partie de notre réalité humaine. Et là, on ne se la raconte pas quand on dit que la vie de couple, elle est faite de ça, d'abord.
Ce qui est important de souligner, c'est que cette grande difficulté que nous avons, tous les uns et les autres, mais là même croyants et incroyants, on fait tous la même expérience, que celui pour qui qu'on veut aimer toute notre vie, ce pour qu'on veut, vraiment, c'est le cœur de notre bonheur, on se rend compte tôt ou tard de l'immense difficulté à s'aimer, à se respecter et à nourrir un amour en crescendo. Mais ça, c'est pas simplement une réalité qui est aujourd'hui. Pour faire court, et c'est le cœur d'ailleurs de l'enseignement de Jean-Paul II sur tout le mariage. Vous savez que Jean-Paul II a fait une immense catéchèse sur le mariage, et le pivot de sa catéchèse, c'est Matthieu 19. Et dans Matthieu 19, justement, dans cette rencontre avec les pharisiens et avec les apôtres, Jésus constate avec les apôtres que mais c'est impossible de vivre cette communion telle que c'est définie aux origines. Et Jésus ne leur dit pas, mais si, tu vas y arriver, c'est un peu difficile, mais vous allez y arriver. Non. Jésus dit, en effet, c'est impossible, sauf à l'homme, c'est impossible, sauf ceux à qui c'est donné. Donc, c'est impossible. Donc, Jésus vient nous rassurer, vous avez du mal à aimer votre conjoint, vous avez du mal à le supporter, vous avez un moment, etc. Rassurez-vous, Jésus lui-même vous dit, effectivement, c'est pas que c'est difficile, c'est impossible. En raison de notre péché. Sauf si jamais ça vous est donné. Et ce don, c'est Jésus-Christ. Donc, réaliser ce dessein, cette communion qui est dessinée aux origines, cette grande joie, exultation d'Adam devant Ève, cette joie, cette communion qu'ils avaient l'un et l'autre, ce une seule chair qui exprime la communion de cœur, la communion d'âme, ce à quoi nous aspirons tous, croyants ou incroyants, c'est anthropologique, cette soif. Eh bien, effectivement, Jésus lui-même nous dit, c'est pas possible, sauf si jamais tu m'accueilles. Et c'est tout le cœur du sacrement du mariage, d'être vraiment le baptême conjugal, pour reprendre l'expression de Jean-Paul II. C'est-à-dire, c'est le salut apporté au couple. Et l'Église, on n'est pas une bande de parfaits. C'est moins qu'on puisse dire. Comme on dit souvent, on n'est qu'une bande de tocards. Et les deux plus grands tocards, c'est les deux colonnes de l'Église. Pierre, Jojo les gros bras, qui est la première incartade, va trahir trois fois Jésus. Et Paul, qui cassait du chrétien à tout bout de champ, et en plus faisait faire la sale Bologne par les autres. Et bien ces deux tocards-là, un traître et un criminel, c'est les deux colonnes de l'Église. Alors si les deux colonnes de l'Église, c'est des gens comme ça, je vous décris pas le reste. Donc ça veut dire que l'Église, c'est pas pour les parfaits, et Jésus l'a dit lui-même. Et donc l'Église n'est pas faite pour les couples parfaits. Les couples parfaits n'ont pas besoin de l'Église. Par contre, l'Église annonce une bonne nouvelle au nom du Christ à ceux qui n'arrivent pas à s'aimer. Et c'est ça qui est fondamental. C'est que Jésus, concrètement, vient nous sauver. Et c'est parce qu'on n'en peut plus. C'est parce qu'on ne supporte plus l'autre. C'est parce qu'on est conscient de notre péché. On est conscient de nos fragilités. On est conscient de nos tentations. Que Jésus est notre salut. Et que cette aspiration si profonde que nous avons à nous aimer, chose qui est impossible à nous, eh bien Jésus va venir le réaliser en nos vies. Et c'est ça qui est fondamental. C'est ça qui est une fantastique bonne nouvelle.
Alors pour comprendre cette bonne nouvelle, ça ne marche toujours pas, c'est pas grave. Ça va mieux comme ça, là. Là, est-ce qu'on entend? Non. Si, ça va, voilà. J'ai une petite voix, alors il faut que je mette tout près. Voilà. Toi, tu as une grosse voix, mais moi, j'ai une petite voix. Alors, pour comprendre cette bonne nouvelle de Dieu, on va faire quelques petits flashs sur la Genèse. Bon, la Genèse, on pourrait passer une semaine, tellement c'est extraordinaire comme texte. Malheureusement, on a souvent peu le temps de parler de ce que la Genèse nous dit. Mais simplement dire quelques petits flashs, parce que si on ne comprend pas quelle est la vision de Dieu sur notre couple, sur notre communion conjugale, qu'est-ce que ça veut dire, alors on ne comprend pas tout le reste. Tout dépend de la Genèse. À l'origine, qu'est-ce que Dieu a voulu? Quel était son projet? Dieu crée toujours en séparant le masculin du féminin. La terre, le ciel. Vous pourrez reprendre tout. En hébreu, il y a toujours un article là, un article le, même si ça fait une faute de grammaire. Et il arrive à l'homme et la femme et il sépare le masculin du féminin. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est que toute l'œuvre de Dieu, c'est de faire l'unité dans la différence. De réunir les différents masculins et féminins dans l'amour. À chaque fois qu'il y a amour, il y a unité, c'est le signe de Dieu. À chaque fois qu'il y a séparation, division, c'est le signe du malin. Donc, la vision de Dieu, c'était de faire en sorte que l'homme et la femme réalisent par leur unité, l'unité du genre humain, qui est visage de Dieu, image de Dieu, c'est même écrit dans la parole. Donc, pour aller très très vite, une autre image importante, quand Ève est tirée de la côte d'Adam, on devrait dire le côté d'Adam, il y a un terme hébraïque qui est utilisé 3 fois seulement dans toute la parole. Ça veut toujours dire quelque chose, hein. Donc on prend la côte d'Adam pour créer Ève et on amène la femme devant l'homme qui se reconnaît en face de cette femme comme étant son égale, enfin son aide, son vis-à-vis. Et puis ensuite, dans l'Ancien Testament, quand les Hébreux sont dans la terre promise, entre guillemets qu'ils trimballent la présence de Dieu avec eux, cette présence de Dieu, elle est représentée par les deux côtés d'une arche qui, quand ils sont unis, contiennent Dieu. C'est vide leur boîte à eux. L'ancêtre du tabernacle était vide, mais l'arche d'alliance contenait la présence de Dieu quand les deux côtés, masculin et féminin, étaient unis. Donc voilà le mystère de l'homme et de la femme. C'est de révéler le visage de Dieu. À chaque fois qu'un homme et une femme sont unis dans l'amour, ils sont visage de Dieu. Ils manifestent Dieu, c'est comme une épiphanie de Dieu. À chaque fois que vous unissez des contraires dans l'amour, ça ne peut pas être autrement que la manifestation du visage de Dieu. Alors évidemment, on comprend très bien pourquoi il y en a un qui s'attaque à la famille et au couple en premier, parce que c'est là qu'il touche le visage de Dieu. Dites à n'importe quel enfant de n'importe quel du monde entier, dans n'importe quelle culture, où est-ce qu'il reconnaît le plus un Dieu qu'il porte en lui, c'est dans l'amour de ses parents. Nous sommes visage de Dieu quand nous nous aimons. Donc nous avons comme vocation de créer cette communion entre nous, entre des différents, et forcément nous sommes différents, et même très différents, disent les psychiatres. Et la troisième fois qu'on va retrouver ce mot côte, c'est bien sûr à la Passion, lorsque la côte de Jésus va être transpercée, et que de cette côte va jaillir Ève, donc l'épouse du Christ qui est l'Église. Elle va jaillir de cette côte ouverte, de ce cœur blessé. Donc voilà comment on retrouve, comme dans une espèce de fil du début de la Genèse jusqu'à la fin de la Révélation, cette espèce de concentration, de zoom sur ce désir de Dieu de faire un. De deux, il veut faire un. Et ce un va se manifester où ? En particulier dans la sexualité. Alors, tu veux le dire ? Parce que sinon, ça va être
très long. Non, mais ce qui est important, c'est que ce que décrit très très bien Jean-Paul II dans toute sa catéchèse, qu'il reprend bien, c'est de bien nous montrer que vraiment la vocation de l'homme et de la femme, c'est cette joie immense qui fait crier à Adam, « Voici l'os de mes os, la chair de ma chair ». Donc c'est vraiment ce cri de joie de cette rencontre, cette béatitude originelle, elle est inscrite, elle est faite pour chacun d'entre nous. Nous y aspirons, c'est normal, c'est inscrit dans nos gènes, c'était le cri d'Adam. Et c'est pour cela que ça se traduit, cette joie intérieure, cette profonde joie, par une seule chair. Ce qui fera dire en Jean-Paul II, et on le cite toujours, sinon on va dire qu'on est hérétique, c'est pour ça que la sexualité, selon le dessein de l'Église, et selon le dessein de l'Évangile et de la Révélation, c'est la liturgie propre des époux. Quand vous voyez le sens du mot liturgie, qui est la célébration visible d'un mystère invisible, qui est de révéler le Seigneur et la Trinité elle-même. Donc cette joie immense d'Adam et Ève, cette rencontre, cette communion célébrée dans la chair, dans la sexualité, mais qui signifie quelque chose de plus important qu'au niveau de la communion des âmes et du cœur, c'est inscrit de toute éternité dans nos gènes. Simplement, pour faire vite, la Genèse va venir fracturer cela.
Pas la Genèse, le péché.
Le péché...
En Genèse 3.
Excusez-moi. Le péché révélé en Genèse 3 va venir fracturer cela. Et c'est clairement signifié que cette manque de communion entre Adam et Ève, signifié par cet épisode de Genèse 3, se traduit où ? Se traduit également au niveau du corps, au niveau de la honte et donc au niveau de la sexualité. Donc voilà comme notre problème immense de communion conjugale et d'amour conjugal s'est inscrit au cœur de cette expérience du péché originel et elle a des conséquences jusque dans notre sexualité. Et donc nous aspirons, nous n'avons, c'est très important, Jean-Paul II insiste, nous n'avons qu'une hâte, qu'une nostalgie de retrouver l'expérience originelle révélée en Genèse 1 et 2, mais cette expérience, cette réalisation et voilée par notre péché. Voilà pourquoi Jésus dit, avec autant d'autorité et de clarté, c'est impossible à l'homme de lui-même. Mais moi, Jésus, par l'œuvre de ma rédemption, par la croix, par la résurrection, cette bénédiction originelle qui est inscrite en vous, auquel vous aspirez, croyant ou incroyant, bon pratiquant ou mauvais pratiquant, qu'importe, nous y aspirons tous, en tant que couple, à retrouver cette communion, mais que nous n'arrivons pas à construire et à retrouver de nous-mêmes. Nous avons souvent l'habitude de dire que les sites porno internet qui font la moitié de la consultation du net mondial, que l'ensemble des sex shops et bouquins porno, c'est une des plus grandes preuves de l'existence de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est la démonstration par A plus B que tout homme, parmi le monde entier, n'aspire qu'à une chose, c'est à rencontrer l'amour, à faire l'expérience de l'amour. Mais comme il ne connaît pas le Seigneur, alors il prend des succès d'années et des caricatures de ce qui est la plus grande communion, de ce qui est la plus grande joie.
Alors, je voudrais juste rajouter, pour être plus précis, qu'est-ce que le péché a fracturé ? Parce qu'il faut bien le comprendre pour voir où est-ce que le Seigneur va guérir. Le péché, il a fracturé les trois dimensions de la relation que nous avions avec Dieu, avec nous-mêmes et avec l'autre. Désormais, nous vivons trois blessures fondamentales. Nous ne nous aimons pas nous-mêmes, nous n'aimons pas l'autre et nous ne nous sentons pas aimés par l'autre. Et nous n'aimons pas Dieu, nous avons même peur de Dieu. Ça, ce sont les trois grandes failles de l'être humain. Et c'est sur ces trois failles-là que le Christ va venir faire son salut. Mais tant qu'on n'a pas compris qu'on vivait tous ces blessures-là, on passe son temps à chercher qui est la cause de nos blessures.
Et on tourne autour.
Et on tourne en rond, jusqu'au jour où on se dit, voilà, je souffre de ces trois blessures, je souffre de ces trois failles, et là on se met à genoux, on dit Jésus, maintenant sauve-moi. Tant qu'on n'a pas cherché, été au bout de cette vérité sur nous-mêmes, on va tourner en rond, et on va partir en spirale. Et on va trouver que c'est toujours la faute de la paire de chaussettes de mon conjoint que je supporte décidément plus. Ou c'est la faute de mon enfant qui décidément m'irrite. On va trouver toutes sortes de choses, mon patron qui est vraiment agressif. On peut tourner en rond toute la vie comme ça. Regardons une fois en face ces blessures qui nous habitent pour demander au Seigneur de venir les visiter. Voilà quelle va être l'œuvre du salut qu'on va déployer pendant ces quelques minutes.
Alors il nous faut avancer. Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant ? Maintenant qu'on a démonté la mécanique, qu'est-ce que je fais ? Jésus nous le dit, et c'est l'entretien de Jésus avec Nicodème. Comment renaître ? Comment renaître ? Je suis fiancé, je suis marié depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 50 ans. Je suis séparé de mon conjoint. Comment je fais ? Comment je fais avec Lara ? Maintenant que je comprends ça. Pourquoi finalement mon baptême, mon sacrement de mariage est si peu efficace ? Ou même pas du tout efficace. On nous le reproche et on nous l'envoie dans la tête tous les jours. Tous les non-croyants ou les anciens croyants nous l'envoient ça dans la tête. Pourquoi vous êtes si peu différents des autres ? Si vraiment c'était vrai la bonne nouvelle, ça se verrait. Est-ce que ça veut dire que le baptême est faux ? Est-ce que c'est le sacrement de mariage, c'est simplement une belle photo ? C'est un symbole religieux ? Nous, ça ne nous intéresse pas. C'est soit efficace et une fantastique bonne nouvelle, soit ça ne m'intéresse pas, et tout ça, c'est les falaises. La théologie est vraie, et Jésus nous a apporté le salut à un niveau personnel par le baptême. Et il nous a apporté le salut en tant que couple. Je ne peux pas aimer Maud comme j'y aspire profondément. Et c'est pareil pour elle. Bon, c'est un peu plus difficile pour elle que pour moi, mais...
On s'en doute, hein.
Mais si jamais je n'arrive pas à accueillir ce salut, si on n'arrive pas à accueillir ce salut, c'est qu'on n'arrive pas à accueillir la vie de l'Esprit-Saint dans nos vies. La vie de l'Esprit-Saint, pour une comparaison, c'est toujours un peu limité les comparaisons, mais c'est comme l'essence dans une voiture. Je peux avoir la plus belle bagnole qui soit. Je peux avoir la dernière Mercedes, dernier cri, etc. etc. Si jamais je n'ai pas de gasoil, eh ben ça n'avancera pas et c'est comme si jamais j'avais rien du tout. Je peux avoir un fantastique, je peux avoir 1 milliard de dollars et d'euros sur mon compte, si je n'ai pas la clé et fait du compte en banque, ça ne me sert strictement à rien. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le trésor, ça ne veut pas dire que je n'ai pas une super bagnole. Et donc c'est ça l'énorme problème de notre vie chrétienne. C'est que nous ne savons pas accueillir la plénitude de l'Esprit-Saint qui vient faire fructifier le salut en chacune de nos vies. C'est pour ça que c'est tellement essentiel d'accueillir la vie de l'Esprit, de pouvoir louer, de bénir le Seigneur, de pouvoir prier, de pouvoir le chanter. C'est comme ça que le Seigneur vient pénétrer nos cœurs, que l'Esprit-Saint vient en nous et vient faire fructifier le salut. C'est impressionnant combien nous avons été témoins, mais sans doute beaucoup parmi vous aussi, à des moments dans la vie de nos enfants, à un moment, ils ont ouvert le cœur au Seigneur et l'Esprit-Saint a habité leur cœur et a fait fructifier mais tout ce qu'on pouvait dire qui était rejeté, machin, etc., etc. Et bien, tout se met dans le bon ordre. Pourquoi ? Parce que sur le baptême, vient s'insérer la vie dans l'Esprit-Saint. Et à ce moment-là, on va de crescendo en crescendo. Et de joie en joie. Et tout se met dans le bon ordre. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas pécheur, mais ça veut dire que, même à travers le péché, on remonte, on se construit, on dilate la joie, on acquiert une liberté. On n'est pas des cubénis, mais on vit avec le Seigneur. Et ça, c'est important de vivre une vie pleinement incarnée dans notre travail, dans nos relations, etc. Mais d'avoir cette liberté de vivre avec l'Esprit Saint, sachant que nous sommes sauvés. Je me souviens toujours de notre fille de 20 ans dans l'école de commerce, revenant un soir me disant « Papa, je te remercie avec maman parce que vous m'avez donné la vraie liberté. Combien je me sens libre, combien je me sens libre par rapport à tellement de mes camarades. Je me sens libre car je connais Jésus. » Et cette liberté qui lui permet aussi après de s'engager dans une relation avec un garçon, de se marier après, etc. Voilà, voilà, c'est la plus grande chance que nous pouvons donner à nos enfants. C'est de les conduire selon la grâce de Dieu, parce que ça lui appartient. Les conduire à cette rencontre vivante de Jésus-Christ. C'est la plus grande des libertés, le plus grand des trésors. Mais nous ne pouvons le faire que si jamais nous-mêmes, nous sommes complètement retournés par le Seigneur. Pas de manière théorique, pas de manière dogmatique. C'est important le dogme, c'est important la théologie, c'est important la vérité. Mais si elle est enflammée par l'Esprit Saint, avivée par l'Esprit Saint. Et c'est pour ça que c'est tellement important dans notre mariage d'être retourné par l'amour du Seigneur, par sa vie, par son Esprit Saint, qui à ce moment-là nous conduit véritablement à nous pétrir concrètement. Alors à ce moment-là, ce qui n'était pas possible va devenir possible. Quelle est la loi du monde sur le mariage ? La loi du monde sur le mariage, Cana nous l'explique. Avant que Jésus intervienne à Cana, on a mis le bon vin au début. Et à un moment, le bon vin, il vient à tarir. Et dans chacune de nos vies conjugales, sauf exception, le vin vient à tarir, à devenir de la piquette. Voire même, il n'y a plus que de la flotte. Alors soit la maman se sépare, soit on cohabite. On fait des efforts, mais on a perdu la flamme. Jésus vient inverser cette loi du monde au niveau du mariage. Et au niveau de toutes nos vies. Jésus, de la flotte qui est devenue notre mariage, ou de la piquette, ou du vin un peu fade, il vient en faire non seulement du bon vin, mais un très bon vin, le meilleur. Le meilleur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que selon la grâce du Seigneur accueilli, l'Esprit Saint accueilli, cette communion, cette joie du mariage que nous avons à vivre ensemble, elle va être crescendo dans la vie. C'est l'inversion de la loi du monde. Voilà pourquoi c'est une bonne nouvelle, d'abord à expérimenter nous-mêmes. Est-ce qu'aujourd'hui je suis dans une loi de crescendo d'amour avec mon conjoint, grâce au Seigneur, ou je suis dans une loi de décrescendo ? La bonne nouvelle, l'Évangile nous dit, pas en raison de nos qualités, je vous rassure, on est tous des tocards, mais en raison de l'accueil de l'Esprit Saint et du Seigneur, de l'accueil du salut, alors notre amour va être en crescendo.
Nous avons la grâce d'être unis par un sacrement, et pour ceux qui n'ont pas le sacrement de mariage, d'avoir le sacrement de baptême, et très peu souvent, on ne nous apprend pas à utiliser nos sacrements. Ils sont efficaces. Et combien de fois on s'est mis à genoux devant le Seigneur en disant, Seigneur, au nom de notre sacrement mariage, sors-nous de cette situation. Trouve-nous une solution. On s'en est toujours sorti. Toujours. Et quand on avait des difficultés avec un enfant qui n'allait pas bien, on voyait bien que ça n'allait pas. On ne savait pas ce qui n'allait pas bien. On a prié, intercédé au nom de notre sacrement de mariage. Seigneur, tu nous as unis, tu nous as donné la responsabilité de cet enfant, maintenant éclaire-nous. Et puis on a porté ça dans la prière pendant 3 jours. 3 jours après, on avait compris quel était le comportement qu'on avait, nous, qui avait fait ce dysfonctionnement. Et on a modifié notre comportement. Et tout est rentré dans l'ordre. Mais ça, on aurait mis des années avec un psy à le découvrir. Avec le Seigneur, ça va beaucoup plus vite. Et on est bien plus sûr d'aller directement au but. On sait qu'on n'a pas besoin de comprendre pourquoi. On a juste besoin de modifier, de se mettre à genoux et demander au nom de la grâce de notre sacrement que le Seigneur agisse. Et il agit, et c'est efficace. Et on peut le dire au nom de son sacrement de baptême. Plusieurs fois on a dit aux enfants, mais utilisez la grâce de votre sacrement de baptême. Dites au nom de mon sacrement, Seigneur, aide-moi à tenir, aide-moi à témoigner de toi quand ils ont la trouille de dire à leurs copains. Il faut demander l'efficacité des sacrements. Ce sont des trésors et on ne sait pas s'en servir. On les met comme une jolie photo sur la commode et puis on n'en parle plus jamais. Non, c'est tous les jours que ça agit, mais il faut le demander. Il faut se mettre à genoux et demander à l'Esprit de vivifier ce sacrement et de le faire agir. Ce n'est pas un coup de tampon. C'est un truc c'est une grâce que le Seigneur nous donne pour en vivre tous les jours de notre vie, mais si on ne l'appelle jamais. Alors, il y a beaucoup de couples qui attendent que ce soit vraiment la fin de la fin de la fin pour dire, au fait, Seigneur, il existe peut-être, il peut peut-être faire quelque chose pour moi. Mais zut, c'est tous les jours qu'il faut demander au Seigneur. Moi, tous les matins, je bénis le Seigneur d'être encore avec Alex et je lui demande de me préserver jusqu'au soir. Mais c'est une louange extraordinaire. Je sais très bien que de mes propres forces, c'est impossible. Mais rentrer dans cette bénédiction, difficile. C'est génial. C'est réciproque, alors ça va.
Il y a un autre point qui est un exemple important et que je suis sûr qu'il va toucher beaucoup parmi vous. C'est la question de la sexualité. Comme on a dit que la sexualité, c'est la liturgie propre au couple. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, au niveau de la sexualité, de la sensualité, de la tentation, notre monde est extrêmement difficile. Et nous sommes éprouvés par rapport à cela. Et notamment, nous avons souvent l'expérience dans nos vies de couple, combien la sexualité va poser des problèmes, combien va être tentée, combien l'expérience de l'adultère, soit de cœur, soit de corps, va nous toucher de près. Et on n'a rien vu parce qu'on a l'impression que c'est crescendo tous les ans dans le monde dans lequel on vit. Et bien nous sommes témoins dans nos vies. Et nous sommes témoins dans tellement de vies. Combien le Seigneur et le salut du Seigneur vient aussi nous rejoindre là-dedans. Et combien ce qu'on a dit par rapport au mariage et l'amour en crescendo, selon l'Évangile, c'est vrai aussi au niveau de la sexualité. Au niveau de notre intimité. Quelle est la loi du monde par rapport à ça? Au bout de 3 ans, de toute façon, tu as fait le tour de ta bonne femme ou de ton mec et tu peux raviver les choses que par le Kama Sutra, etc., etc. Donc, il faut toujours cultiver la passion et la nouveauté, sinon tu vas te lasser. Et donc, tôt ou tard, forcément, tu vas regarder à côté. Et toute la dynamique du monde nous y pousse. Et vous voyez très bien ce à quoi je veux dire, les uns et les autres. Ça rejoint forcément chacune de nos vies conjugales, d'une manière ou d'une autre. On n'en est pas indemne. Or, le Seigneur vient nous rejoindre également là-dedans. Et la conversion qu'on attend du Seigneur et le salut que nous attendons dans notre couple, le renouvellement, la purification, la conversion de notre relation s'exprime forcément, d'une manière ou d'une autre, au niveau de notre sexualité. Ah, c'est sûr. Peut-être qu'on ne fera pas les combien de positions, je ne sais pas quoi, enfin du Kama Sutra. Ce n'est pas la question. Par contre, le Seigneur vient nous redonner, en nous sauvant également là-dedans, dans notre relation, vient nous redonner une fraîcheur, une sensibilité, une délicatesse, peut-être plus grande encore que celle qu'on a eue le soir de notre nuit de noces. Et ça, combien nous en sommes témoins? Combien nous en sommes témoins? Vous imaginez cette bonne nouvelle pour chacun d'entre nous, mais pour le monde entier. Le monde est parti dans une course folle au cul et au sexe. Et bien sûr, plus il le cherche, moins il trouve ce à quoi il aspire. Or en Jésus, quand Jésus vient nous sauver, il vient sauver notre couple, il vient sauver aussi notre une seule chair, et également cette communion intime que nous avons l'un avec l'autre. Et vous voyez aussi là où je veux en venir, parce que c'est pour cela que nous sommes ici. Nous sommes ici pour nos enfants. Et donc quand il vient convertir notre relation la plus intime, il vient aussi donc convertir notre une seule chair, et aussi le fruit de notre une seule chair. Si nous sommes là, c'est que nous avons foi dans ce que le Seigneur peut faire de profond, de guérison dans la vie de notre enfant. Pour X raisons, pour nous-mêmes, nos parents, X événements qui se sont passés. Mais c'est la chair de notre chair. C'est l'âme de notre âme. Aimons-nous saintement en tant que couple, en tant que parents. Accueillons en tant que baptisés la plénitude du salut. Forcément, parce que nous sommes liés, parce que nous sommes, pour reprendre l'expression, nous sommes un seul corps aussi avec nos enfants, spirituellement. Nous formons une église. La guérison que nous accueillons rejoint celle de nos enfants. La guérison spirituelle que nous accueillons rejoint le cœur et l'âme de notre enfant. Pour reprendre toujours l'expérience, le parallèle entre l'église universelle et l'église domestique ou l'église locale, elle est présidée par le pape, elle est présidée par l'évêque, la paroisse est présidée par le prêtre, la famille est présidée par le papa, et forcément, si jamais le papa n'est pas là, par la maman, par substitution, qui préside. Et donc, cette question de la présidence est fondamentale. C'est une présidence charismatique, théologique, pas une théorie. C'est quelque chose qui est de l'ordre du corps. Donc là où le corps et la présidence du corps est guérie, forcément les membres, l'ensemble des membres sont touchés. Tu vois bien que ton enfant ne va pas bien. Tu vois bien que j'ai des choses qui ne vont pas. Alors, c'est vraiment un appel profond à te convertir. Ce n'est pas la facture à payer, Jésus te dit. C'est de ta faute, ce n'est pas ça du tout. C'est un appel profond à retrouver cette intimité, cette vocation initiale, cette vocation nuptiale avec le Seigneur.
Il n'y a pas longtemps, je lisais un livre d'un pédiatre pas du tout croyant qui disait qu'il avait depuis longtemps remarqué chez ses petits patients que l'équilibre psychosomatique de ses enfants dépendait de la sexualité de ses parents et de la façon dont ils vivaient leur sexualité et leur tendresse conjugale, qui avait un lien très fort. Et il est non-croyant. Il lit les choses qui font partie de notre anthropologie, de l'être même de notre vie. Quand nous célébrons notre amour dans la joie, l'allégresse et le respect, c'est toute la vie de la famille qui est sanctifiée par cet amour. C'est une sanctification. On fait venir, on fait exister, si je puis dire, Dieu entre nous. Et ça, si on ne le comprend pas, on reste dans la question de pudeur mal placée ou autre. Non, on est là à célébrer l'amour, après on le fait de la façon qu'on veut, peu importe, et on va cheminer. Mais cet amour, évidemment, passe par des combats, parce que nous avons en nous ces deux natures dont nous avons parlé tout à l'heure, la nature bénie de la jeunesse, et puis la nature pécheresse, comme dirait saint Paul. J'ai deux lois qui sont en moi, une qui voudrait faire le bien et l'autre qui me tire, etc. Vous connaissez ce texte. Le pauvre saint Paul lui-même est écartelé, donc nous y sommes tous aussi écartelés.
Bienvenue au club.
Voilà. Mais ce combat, on ne va pas le mener en serrant les dents, ça ne sert à rien. Là, on a perdu d'avance. C'est là où il faut comprendre que ce combat se mène avec les armes de l'Esprit-Saint, les armes de la vie spirituelle. Il faut y faire appel, parce que si jamais on le mène avec les mauvaises armes, alors on rajoute à l'angoisse, on rajoute à la culpabilité, et on ne s'en sort pas.
Et c'est inefficace.
Et c'est en plus inefficace, et on y bouffe son énergie. Donc retrouvons le vrai combat, le combat, comment est-ce qu'on le mène, comment est-ce qu'on fait fructifier la grâce dans notre mariage. Alors nous, on a essayé de détailler quelques étapes, il y en aurait beaucoup, mais c'est parce qu'il faut qu'on aille assez vite. La première étape, si vous relisez Acte 2, c'est extraordinaire, le début de la communauté chrétienne. Pierre sort après la Pentecôte, Il fait une homélie qui fait pâlir d'envie tous les curés du monde, puisqu'en une homélie, il convertit 3000 personnes. Pas mal, l'efficacité. Déjà, c'est bien. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? D'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé. Première démarche, avoir le cœur transpercé. Est-ce que je suis capable de pleurer devant Jésus en disant vraiment, je ne peux pas y arriver ? Je suis transpercée parce que j'ai envie de vivre cet appel que tu me donnes et je n'y arrive pas et je le reconnais. Donc j'ai le cœur transpercé. Et c'est normal qu'on ait le cœur transpercé. Il ne faut pas s'en défendre, il faut laisser la grâce passer par cette blessure du cœur. Et ne serrons pas les dents quand on sent que notre cœur est transpercé. Et si ça nous fait pleurer, eh ben, béni sois-tu Seigneur pour le don des larmes qui libère mon cœur.
Et si pendant ce week-end, le Seigneur vient vraiment toucher profondément votre cœur, vous avez vraiment le cœur transpercé par telle parole, par l'Esprit Saint, etc., accueillez la plénitude de cela. La conversion commence, pas là-dedans, pas dans la tête, dans le cœur qui vous a touché. Vous êtes tombé amoureux de votre conjoint, c'est pas d'abord là que ça a parlé, hein, c'est là que ça a parlé. Et bien avec Jésus, c'est pire. Bon. Et donc c'est le cœur qui d'abord doit être touché. Est-ce que oui, Seigneur ? Je suis touché par cette bonne nouvelle du mariage. Est-ce que oui, après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 50 ans, je ne sais pas, est-ce que vraiment, oui, c'est cela que je veux vivre, c'est cette renaissance que je veux vivre, est-ce que j'ai le cœur touché par rapport à ça ? C'est ça qui est important, que vous vous disiez à vous-même personnellement et que vous puissiez en partager en couple. Alors, c'est dans la mesure où vous avez ce désir et ce cœur touché qu'à ce moment-là, Jésus peut travailler dans vos cœurs. Si jamais votre cœur, si d'abord c'est d'abord cérébral, vous ne pouvez pas avancer. Jésus ne peut pas travailler votre cœur. C'est un cœur ouvert que Jésus va pouvoir guider et retourner.
Et quand on dit le cœur transpercé, on n'est pas dans une analyse de ce qui fait que j'ai le cœur transpercé. On constate juste, Seigneur, voilà, je suis transpercé, voilà ma souffrance, voilà mon incapacité, et ça, je le dépose à tes pieds. La deuxième question qui vient derrière, c'est que ceux qui ont eu le cœur transpercé se tournèrent vers l'Église en disant « Frère, que devons-nous faire ?» Je vais y arriver. « Frère, que devons-nous faire ?» C'est un très bon exercice de diction. « Frère, que devons-nous faire ?» Donc, à ce moment-là, tournez-vous vers l'Église pour demander la grâce du sacrement de réconciliation, de la vie spirituelle, vous nourrir de la parole de Dieu. Vous tournez vers les frères. On ne reste pas seul avec son péché. C'est ça qui a condamné Judas. C'est pas qu'il manquait de miséricorde. Lui aussi, il a trahi lourdement.
Entre Pierre et Judas, péché, c'était quand même, et l'un et l'autre, c'était pas mal. Hein. Mais la grande différence, c'est pas au niveau du péché. C'est la manière dont ils l'ont, entre guillemets, traité.
Donc Pierre a accueilli la miséricorde. Judas ne l'a pas accueilli. Et les Juifs à qui il a rapporté les pièces d'argent lui ont dit cette parole qui l'a enfermé. Vois-toi-même avec ta conscience. Surtout, n'essayez pas d'évaluer votre péché avec votre conscience. Ne vous mettez pas dans cette histoire-là, parce que c'est mortifère. On ne peut pas supporter notre propre péché. La seule chose qu'on puisse faire, c'est s'accrocher à la miséricorde de Dieu. Donc, il faut faire comme, moi je vois souvent dans notre vie quotidienne, il faut faire comme Pierre. Il est dans la barque, il y a la tempête, Jésus lui dit, tu veux sortir ? Prends ma main et sors. S'il regarde la flotte, il coule. Donc vous ne regardez pas l'eau, vous regardez le Christ et vous sortez de la barque. Et c'est ça la grâce du salut. Il faut sortir de la barque. Donc il faut quitter nos boulets qui nous tirent, toutes les histoires de notre passé qui nous ont englués dans des situations, machin, truc. Oui, d'accord, on peut s'amuser à les démêler. On peut aussi les laisser le Seigneur les démêler et nous on sort. Mais on ne lâche pas les yeux de Jésus. Si on lâche ses yeux, on est foutu. Donc il faut s'accrocher à la prière, mais pas s'accrocher à la prière, Seigneur sauve-moi quand ça va pas, puis dès que ça va un peu mieux, j'oublie Jésus, c'est hors de question. Je ne lâche pas d'une semelle son manteau. Je reste agrippé aux franges. Et ça, c'est une vie quotidienne de prière et d'intimité avec Jésus pour, bon après on verra comment est-ce qu'on peut avancer dans cette prière, mais pour rester accroché à la grâce du salut.
Autre point important, c'est très clair, c'est que Jésus vient nous guérir et vient travailler nos cœurs à la mesure de notre foi. S'il nous donne un dé à coudre, il nous guérit avec un dé à coudre. Si jamais on lui présente une piscine, eh bien il nous guérit avec une piscine.
Et un océan,
il nous guérit avec un océan. C'est, vous savez, cet épisode des deux aveugles. Enfin, on aime bien ces deux aveugles, que ça soit un couple. C'est pas marqué dans l'évangile, mais comme c'est pas marqué, on a la liberté de dire que c'est un couple. Hein, bon. Et vraiment, il crie vers le Seigneur. Et il dit, aie pitié de nous. Aie pitié, fils de David. Et Jésus leur dit, croyez-vous. Croyez-vous que je puisse faire cela pour vous? Donc c'est bien à la mesure de notre foi. Jésus, bien sûr qu'il peut guérir tout le monde, mais c'est à la mesure de notre foi. Et après, il dit clairement qu'il advienne selon votre foi. Donc ce n'est pas à la mesure de Jésus ce qui va advenir, c'est à la mesure de notre foi. Donc c'est toute la question de notre vie. On va revenir toujours sur la discussion avec Nicodème. Tu renais et de l'eau et de l'esprit. Et de l'eau, c'est tout le baptême et la foi que nous avons dans Jésus Sauveur. Et pas un Jésus gnangnan. Jésus Sauveur. Et après, c'est tout l'accueil de la vie dans l'Esprit Saint. Une foi qui n'est pas animée par l'Esprit Saint est une foi stérile. Et donc, nous devons avancer selon ces deux voies. Et c'est en cela que cette grâce, cette bonne nouvelle, elle est efficace dans nos vies personnelles, conjugales. Et donc à ce moment, elle fructifie chez notre enfant. On va peut-être prendre un petit... Tu veux dire un petit mot? Peut-être qu'on va prendre juste un petit refrain à l'Esprit Saint pour laisser... Et avant de finir, il nous reste 25 minutes.
Esprit Saint, rosé de tendresse, descends sur nous, mets en nous ta vie. Esprit Saint, rosé de tendresse, descends sur nous, fais-nous vivre de ta vie. Esprit Saint, rosé de tendresse, descends sur nous, mets en nous ta vie. Esprit Saint, rosé de tendresse, descends sur nous, fais-nous vivre de ta vie.
Voilà. Donc je crois que vous avez perçu le sens de notre intervention jusqu'à maintenant. Pour nos enfants, il nous faut accueillir bien davantage la plénitude du salut en couple. Et pour cela, avoir foi et accueillir l'Esprit Saint. Pour clore, j'aimerais vous lire un morceau d'un texte de Jean-Paul II, qui est en fait la lettre aux familles. C'est un texte que tout le monde devra avoir sur sa table de chevet. Et dans cette lettre aux familles, il y a une véritable épiclèse, une invocation à l'Esprit Saint sur les couples. Et ça va introduire également, conclure à la fois la première partie, et introduire cette deuxième partie où on aimerait davantage saisir, je dirais, le ministère charismatique, pourrait-on dire, des parents vis-à-vis de leurs enfants. La famille, dit-il, se trouve au centre du grand affrontement entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, entre l'amour et tout ce qui s'y oppose. C'est à la famille qu'est confiée la tâche de lutter pour libérer les forces du bien, dont la source est dans le Christ rédempteur. La libération du bien dans nos familles vient du Christ Sauveur. Il est essentiel que chaque foyer s'approprie ses forces afin que la famille soit forte de Dieu. Nous sommes dans un combat spirituel très profond, insoupçonné. Et donc, pour le combattre, c'est les armes du combat spirituel qu'il nous faut utiliser. Et voyez ce que dit Jean-Paul II. « Je fléchis les genoux en présence du Père afin qu'il daigne vous armer de puissance. » Pas de gnangnan, pas de gentillesse, de puissance, par son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme et la femme intérieure. La femme, c'est moi qui rajoute. Mais ça veut bien dire que c'est bien l'invocation de Jean-Paul II qui préside l'Église, qui a présidé pendant 20 ans l'Église universelle, qui a fait le plus grand enseignement que n'importe quel pape et théologien ait fait sur le mariage. Qui nous a ouvert des horizons fantastiques sur la réalité théologique et spirituelle du mariage. C'est lui qui vient invoquer la puissance de l'Esprit Saint pour que se réveille en nous ce trésor insoupçonné. Et que nous soyons fortifiés dans l'accueil de la révélation pour nous-mêmes, mais aussi pour nos enfants. Alors c'est là où nous voulons aborder, pour clore, mais ce n'est pas le moins important, deux textes qui nous renseignent de manière importante sur le ministère des parents vis-à-vis des enfants. Et le premier texte, vous le connaissez bien, c'est celui de Jésus à 12 ans. Jésus qui était monté en pèlerinage à Jérusalem, ses parents repartent, et ils ne trouvent pas Jésus, et à ce moment-là, ils le cherchent. Ils le cherchent, ils remontent toute la caravane, et ils le cherchent dans tout Jérusalem. Et finalement, ils le retrouvent au milieu des docteurs.
Donc, ce qui nous semble important, c'est de méditer ce texte, parce qu'il s'agit bien de parents accompagnant un enfant à 12 ans. À 12 ans, c'est l'âge où, chez les Juifs, on acquiert sa maturité, puisqu'il y a la fameuse bar mitzvah. Donc, au moment de ce passage de l'adolescence, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui n'est pas un passage très marrant pour les parents, ni pour les enfants d'ailleurs, mais c'est un moment crucial. Et voilà que Jésus vient nous enseigner sur ce moment-là, sur ce passage-là. Je crois que tout couple se reconnaît dans Marie et Joseph. S'il y a un de vos enfants qui dit « je rentre ce soir » et puis qu'il n'arrive pas, je pense que ça tourne assez vite à l'angoisse, si ce n'est à l'engueulade mutuelle, sur des tas de sujets, l'irritation, la révolte, enfin on essaie de passer par tous les portables interposés, on stresse quand même pas mal.
Il est dit dans l'évangile, Marie-Joseph furent saisis d'émotion et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois, ton père et moi, nous te cherchions angoissés. » On ne se reconnaît pas un peu là, hein ? Bon, hein, c'est hein, donc là aussi, Marie-Joseph n'était pas indemne d'inquiétude, etc. Ils se sont fait complètement bousculer par l'expérience et la vie de leur enfant. Alors, surprenante.
Il faut aller plus loin parce que ce mot « chercher », »,« nous te cherchions », on le retrouve quand Dieu cherche Adam après la chute. Où es-tu, Adam ? Qu'as-tu fait du bonheur que je t'avais confié ? Donc c'est la recherche de nos cœurs de parents qui attendent le meilleur de nos enfants et puis bah, ils vont ailleurs et ils font d'autres chemins et ils vont sur d'autres routes. Et ce « cherches-tu ?» et bah, on l'a au fond de nos cœurs pour notre enfant. Et on cherche l'enfant qu'on a pressenti qui devait jaillir de ce petit qu'on a eu, qui nous a été confié entre les mains. Et voilà que cette angoisse monte. Donc nous avons cherché à décrypter dans ce texte les points de conversion que nous avons à vivre pour notre couple par rapport à nos enfants. Donc le premier point de conversion, c'est le plus dur, c'est la confiance. Il faut faire confiance à Dieu et ça c'est un combat de chaque minute. Confier nos enfants à Dieu, c'est pas les abandonner. Je me débarrasse de mes enfants sur Dieu, non. J'assume mon rôle de parent, mais dans une confiance totale en Dieu. Et ça, cette confiance-là, c'est un abandon qui est extrêmement difficile à vivre, surtout pour les mamans. Je vais vous donner un exemple très clair, je pense que c'est important de le dire. À la naissance de ma première fille, j'ai été bouleversée par le texte de la nativité, par un petit détail idiot que j'avais peut-être entendu 500 fois dans ma vie, qui n'avait jamais tilté, et qui est juste cette petite phrase, « À peine Jésus était-il né, et Marie le déposa dans sa crèche, dans une crèche. » Je ne sais pas si toutes les femmes qui ont accouché ici imaginent ce que ça veut vouloir dire d'avoir un petit qui est né il y a 10 minutes et qu'on sort de son corps pour aller le poser dans une crèche, dans un machin humide, plein de bestioles et dégueulasse. Excusez-moi le côté incarné de la chose, mais ce geste-là, si c'est écrit dans l'Évangile, c'est que ce n'est pas anodin du tout. C'est que Marie, elle a donné son enfant dès la première seconde de la naissance. Elle ne l'a pas capté pour elle. Et ça, c'est un combat de la mère qui est normal, mais qui fait partie de notre être. Nous avons envie de garder nos enfants pour nous et de les protéger. Et ce combat du lâcher-prise et de l'abandon est un combat incessant. Et il faut que nous laissions nos maris nous aider à mener ce combat. Alors évidemment, ils sont un peu maladroits dans la façon dont ils s'y prennent, on leur pardonne, mais il vaut mieux qu'ils soient maladroits et qu'ils le fassent plutôt que de nous laisser, nous, être des mères captatrices. Il n'y a pas pire. Donc il faut absolument rentrer dans cette démarche d'abandon le plus tôt possible. Et c'est un combat, ça veut dire que ce n'est pas fait une fois pour toutes. Et c'est que c'est tous les jours, quand votre enfant ne vous a pas donné des nouvelles depuis plus de 2 heures et que vous stressez, que vous dites non, j'accepte de lui faire confiance. Et je ne stresse pas. Et je suis zen. Voilà. Et vous allez vous forcer à aller voir votre mari en disant « Tranquillise-moi.
Je suis stressée, je suis angoissée, je ne dois pas rentrer dans l'angoisse. Je dois faire confiance à Jésus. Et bien, je vous assure, si vous faites ça une fois, deux fois, trois fois, ça va être dur au début. Et plus vous avancez dedans, plus c'est une libération extraordinaire. Parce que les enfants sentent notre confiance. Ils savent qu'on les a abandonnés à Jésus. Ils savent qu'on leur fait confiance. Et il y a un fruit extraordinaire de cette confiance. Mais c'est vrai que c'est hyper dur. Et que dès qu'on a tourné les talons au combat, boum, ça revient et l'angoisse remonte toute seule. Donc c'est pas à gagner, s'il faut le refaire tout le temps.
Ça va être très long, on n'a pas le temps, il nous reste à peine un quart d'heure, on n'a pas le temps de tout lister. Reprenez ce texte ensemble, partagez ensemble autour de ce texte, c'est une mine d'or. Je crois que nous, on y a passé peut-être un mois à partager ensemble dessus. Et après, on a relu ce qu'on avait écrit, etc., etc. Enfin bon, on y a puisé des choses extraordinaires. Donc on vous donne simplement des petites choses et qui sont extraites. Le Seigneur nous enseigne au travers de cela. Vivre avec nos enfants, c'est toujours surprenant. C'est toujours déstabilisant. Même pour Marie et Joseph. Déstabilisant au point d'être inquiet, angoissé. Donc, si jamais ça vous arrive... Dites-vous que même Joseph et Marie ont vécu ça. Donc ça doit faire partie du statut des parents. Ça doit être un peu dans leur gène. C'est toujours surprenant. Et c'est là où il faut entendre ce que le Seigneur nous dit. Et ce que le Seigneur a dit à Pierre. Et Pierre est président de l'Église. Et nous, parents, nous présidons l'Église domestique. Un autre te mettra la ceinture et te conduira où tu ne voudras pas aller. Le Seigneur nous conduit toujours en tant que parents. Si nous ne voulions pas être déstabilisés et être pépères dans nos vies, il ne fallait pas choisir la vie familiale. On est toujours déstabilisés. Il se passe toujours des choses qui n'avaient pas été prévues. À un niveau du travail, à un niveau santé, à un niveau familial, à un niveau enfant. Toujours, toujours, toujours. Il y a toujours des surprises. Et c'est toujours déstabilisant. Ça fait partie de notre vocation. C'est comme cela. Et il y a une parole que nous avons accueillie dans notre famille, à la fois pour nous, c'était très important, notamment pour le moment du travail, des discernements, etc. Et c'est une parole que nos enfants aiment également beaucoup utiliser dans leur propre vie. C'est celle-là. C'est le parallèle de nos vies avec celle du peuple hébreu dans le désert. Si nous avons rencontré Jésus, si nous lui avons donné notre vie, s'il nous donne une vie nouvelle, nous avons donc quitté nos Égyptiens et nous avons passé la mer Rouge. La mer Rouge, elle se passe une fois. Elle ne se passe pas 36 fois. Et la promesse de Dieu, Jésus ne la reprend pas. Tu nous as libérés, Seigneur Jésus, et cette libération, tu ne nous la reprends pas. La deuxième chose, c'est que s'il nous a libérés et fait traverser la mer Rouge, qu'on lui a donné notre vie, qu'on a fondé notre vie sur lui, en tant que couple, en tant que famille, on sait qu'il va nous conduire à la terre promise. Par contre, Moïse n'a jamais connu la terre promise. Jamais. Mais il croyait en la promesse du Seigneur, tu me conduis à ta promise, là où coule le lait et le miel. Et ça, cette promesse de Dieu, Jésus n'enlève jamais. Malgré tous les aléas de notre vie, Seigneur, tu nous conduis à cette promise. Troisième élément, le Seigneur nous donne la manne au jour le jour, pas pour deux jours. Au bout de deux jours, elle est moisie. Jésus donne la manne tous les jours. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je dois vivre dans la foi. Sa nourriture, il me la donne au jour le jour, au niveau de sa parole, au niveau des sacrements, au niveau de l'amour, au niveau de etc., etc. Mais je ne sais pas, je n'ai pas une vie préprogrammée. Et deuxièmement, le peuple hébreu avance dans le désert, dans la nuée. Dans la nuée. Si la nuée n'est pas là, le peuple est figé et n'avance plus. Parce qu'il ne sait plus le chemin à ta promise. Si je ne vis pas dans ma famille, dans l'Esprit Saint, si je ne demande pas que l'Esprit Saint nous conduise au jour le jour, je suis scotché. Je gère dans le désert. Et combien de fois d'ailleurs, alors que le voyage, ils pouvaient le faire en quelques semaines, ils ont mis 40 ans. Pourquoi ? Parce que nombre de fois, ils n'ont pas accueilli l'Esprit Saint, et ils ont tourné en rond dans le désert. Et combien de fois nous tournons en rond dans nos vies conjugales et familiales ? Parce que nous revenons à nouveau dehors, etc., etc. Et ça, c'est libératoire. C'est libératoire pour des parents, c'est libératoire pour des enfants. Et combien de fois, mais vraiment c'est au quotidien, nous voyons qu'un tel ou un tel vit cela. Parce qu'effectivement, à un moment, il faut qu'on souhaite qu'on se rappelle que le Seigneur nous a sauvés et que oui, c'est vrai, Seigneur, j'aimerais saisir l'avenir, j'aimerais savoir. Voilà. Et donc, c'est un appel constant à la confiance. Mais c'est libératoire. On a un enfant qui a particulièrement des difficultés de caractère, d'études, etc. etc. C'est toujours très délicat pour elle, toujours très délicat. Mais cette parole, mais c'est impressionnant. Cette parole-là, avec la petite Thérèse et son ascenseur, c'était libératoire pour elle. Et elle est, ouais, elle est bénie du Seigneur, mais c'est vrai qu'à un moment, elle ne fallait pas gâter. Quoi. C'est toujours plus difficile pour elle que pour les autres. Et bien, c'est une bénédiction et c'est libératoire pour elle. Alors qu'humainement, ce serait sans doute beaucoup plus difficile. Donc, vous voyez comme tout cela est vraiment très, très concret. Voilà, il y aurait plein d'autres choses à dire. On vous invite véritablement à méditer cette parole. La deuxième parole qu'on aimerait méditer avec vous, ça concerne particulièrement cette session de la maison d'Abba. C'est l'expérience du Talitha Koum.
C'est la guérison de la fille qui était morte. La fille de Zacharie.
On vous le relit
alors,
rapidement.
On relit le texte parce que c'est important d'avoir ouais. En tête.
Une foule nombreuse se tenait autour de lui, de Jésus.
Ouais, je donne la référence, c'est Marc 5, 21, 24, 35, 43.
Une foule nombreuse se tenait autour de lui. Arrive un chef de la synagogue nommé Jaïr, qui voyant Jésus, tombe à ses pieds. Ma petite fille est à toute extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Arrivent alors des gens pour lui dire « Ta fille est morte ». Mais Jésus dit « Sois sans crainte, aie simplement la foi ». Arrivant à la maison, il aperçoit du tumulte, des gens qui pleurent et poussent de grandes clameurs. Jésus met tout le monde dehors, mais prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'accompagnent. Vous allez voir, tous les mots comptent. Puis il pénètre où reposait la jeune fille, il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait 12 ans, tiens, là aussi. Elle avait 12 ans. Ils en furent tous complètement bouleversés.
Alors, on pourrait méditer encore cet évangile très longtemps, et je pense que ce serait peut-être important, si vous avez envie de le relire pour vous, de voir quelle parole vous touche plus, et ça peut être l'occasion de remettre ça à Jésus. Mais voilà, il y a quelque chose sur lequel on veut revenir. Premièrement, vous l'avez déjà vu, la première démarche des parents, c'est « Seigneur, tu peux la guérir, viens lui imposer les mains ». Ça, c'est la prière des parents. Il faut que vous ayez dans le cœur ce désir que Jésus vienne toucher votre enfant ouais, pour
si,
le sauver.
Si vous êtes là, a priori, c'est bien que vous êtes là pour ça. Bon.
Mais il faut le garder au cœur parce que ça peut revenir sur d'autres enfants ou d'autres moments de votre vie. Donc d'abord, faire appel à Jésus. Ensuite, Jésus met tout le monde dehors. Ça veut dire que tous les commentaires que vous entendez, que vos enfants sont mal élevés, sont ci, sont mis, que la mère pense que vous ne les élevez pas comme il faut, que le beau-père pense que machin, que d'ailleurs vous devriez...
Que la tota, que la copine a dit que parce que sa mère voilà. Lui a dit que,
et
qu'elle a une bonne machin,
d'ailleurs,
etc.
D'ailleurs, elle a une copine psy qui lui a dit qu'il fallait faire comme ci. Bon, vous mettez tout ça dehors. D'abord, vous faites table nette et vous êtes que avec Jésus. Et Jésus vous emmène, c'est-à-dire que vous allez décider de laisser Jésus rentrer dans la chambre de vos enfants. C'est pas rien. La chambre, c'est le lieu de l'intimité. Moi, je sais qu'en tant que mère, j'ai été extrêmement vigilante à respecter l'intimité de mes enfants. Tellement la respecter qu'il n'est pas du tout évident de rentrer dans leur chambre. C'est quand ils m'y invitent. Mais quand je rentre dans la chambre, j'y rentre aussi avec Jésus. Et je leur propose d'être en prière avec eux, seuls s'ils veulent. S'il y a quelque chose qui a été lourd. Est-ce que tu veux que je prie avec toi? Est-ce que tu veux prier tout seul? Est-ce que tu veux qu'on prie en famille? Inviter Jésus dans les moments d'intimité avec nos enfants. Si on ne laisse pas Jésus rentrer dans notre maison, il ne peut pas agir. Si Jésus, c'est que le dimanche à la messe ou ailleurs, il ne peut pas agir.
Mais chose aussi très importante, Jésus ne peut pas agir si jamais il ne rentre pas avec les parents. C'est très important. C'est ensemble que Jésus, c'est les parents et Jésus ensemble qui peuvent faire que l'enfant va être profondément touché. C'est les parents qui invitent Jésus, et c'est Jésus qui met tout le monde dehors et qui prend les parents avec lui. Donc nous sommes profondément associés au ministère de Jésus. Ça nous rappelle ce qui était un peu exprimé tout à l'heure. La famille, c'est une église domestique. Et Jésus respecte profondément notre propre ministère de parents, parce que nous présidons la communauté familiale. Et pour un père qui serait seul ou une mère qui serait seule, c'est très important de pouvoir présider.
Alors, j'en profite pour dire une petite chose qu'on ne dit pas souvent. Il y a un charisme spécifique du père de famille pour la protection des enfants et des parents et de la famille. Moi, je sais que nombre de cauchemars des petits ont été guéris quand Alex leur a imposé les mains en demandant la paix pour cet enfant. Ça a été terminé. Pourtant, c'était soi-disant la phase des 3 ans, des machins, de tout ce que vous voulez. Il y a des cauchemars qui sont d'une autre nature. Et il y a une grâce du père quand il prie pour ses enfants. Mais par contre, il y a une grâce de la mère dans l'enfantement spirituel. Nous devons enfanter nos enfants dans la vie spirituelle. Nous sommes là pour les évangéliser. Et si vous avez découvert des choses de votre vie spirituelle à 40 ans, peut-être vos enfants ils pourront en profiter avant 40 ans. Donc apprenez-leur tout de suite ce que vous savez sur Dieu. N'attendez pas qu'ils attendent comme nous si longtemps pour découvrir des choses. Et ce que dit Jésus aussi dans cette parole, il prie les parents et ceux qui les accompagnaient. Le 3 petits points et ceux qui les accompagnaient, c'est l'Église. S'il y a des moments où vous avez besoin de demander à des frères ou un prêtre de venir s'associer à vous dans ce ministère auprès de vos enfants, on ne peut pas tout seul. On sait très bien qu'avec nos adolescents, c'est le moment où les parents questionnent Jésus, vaut mieux se la fermer un peu, et il faut espérer qu'il y ait des relais. Moi, souvent, je prie qu'il y ait des anges sur le chemin. Trouver un ange, là, la bonne personne qui va bien orienter le gamin au moment où nous, on ne peut plus rien dire. Et ils en trouvent des anges sur le chemin. Il y en a. Donc il faut les demander quand on sent qu'on ne peut plus faire nous. Et il faut solliciter l'Église. Alors évidemment, après, il faut trouver les bons lieux, tout ça, on est d'accord.
Voilà, donc mais c'est tout le processus, et c'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça que ce texte est tellement important pour la maison d'Abba et de votre ministère qui est propre d'accompagner votre enfant. C'est que vraiment, ce qui va se passer pour votre enfant, ça va être à la mesure, bien sûr, du ministère de Jésus, de l'action de l'Esprit-Saint, mais aussi de toute votre foi. Et c'est là où, véritablement, c'est à la mesure de notre foi aussi que va se fructifier, alors sans doute parfois de manière mystérieuse, de manière parfois surprenante, inattendue, mais que c'est une abondance de grâce, où effectivement, nous pourrons dire avec l'Église que nous en sommes bouleversés, de savoir la renaissance, la résurrection que le Seigneur a mis dans nos vies. Et sans doute que vous êtes venus en demandant certaines choses et que vous allez repartir ou récupérer des fruits à des endroits que vous n'attendiez absolument pas. Parce que c'est la logique de Dieu. C'est la logique de la manne dans le désert. C'est que le Seigneur nous conduit sur des chemins que nous ne connaissons pas. Mais combien de fois, on a eu encore l'expérience cette semaine, bon, c'est un peu personnel, mais j'ai dit à Maud, je suis revenu, j'ai dit à Maud, mais attends, je croyais que le Seigneur était génial, mais il est encore plus génial que je le pensais. C'est toujours, mais tellement mieux que ce qu'on peut déjà imaginer. C'est pour ça que c'est la loi du crescendo systématique avec Jésus. C'est encore mieux que ce qu'on avait dessiné.
Et on discerne,
même si les chemins sont tortueux.
On discerne justement ce passage de Dieu au fameux fruit de l'esprit. La paix, la joie, la communion, la sérénité, mais la paix des profondeurs. La joie des profondeurs, pas la joie de l'excitation, ça on sait bien que c'est pas ça que le Seigneur donne. Et ça on le voit, par exemple, une chose très bête, la paix dans les décisions. Nous on s'est juré que jamais on prendrait une décision si on n'était pas...
On s'est promis.
Pardon.
On s'est promis.
On s'est promis qu'on ne prendrait jamais une décision importante pour notre vie de couple si on n'avait pas la paix entre nous. La question c'est pas qu'il ait raison ou que j'ai tort ou l'inverse, mais c'est qu'on trouve ce que le Seigneur a envie de nous dire et la décision qui nous met en paix l'un et l'autre. Mais ça, c'est le fruit de l'esprit. Quand on est dans la paix, aucune décision ne pose un problème.
C'est une décision qu'on a prise il y a peu de temps, il y a 3 ans. À un moment, il y avait un truc qu'on n'avait pas réglé, puis on tournait, puis ça nous irritait, etc. Et à un moment, ça a été vraiment donné la prière, on s'est dit, bah tiens, on ne va plus prendre plus aucune décision sans qu'on soit tous les deux d'accord. Jésus, tu vas nous donner... Et on ne va pas des concessions, on ne va pas spéculer. Bon, je te laisse ça, tu me laisses ça, non, non. Voilà. Voilà, des choses vraiment qui rejoignent le quotidien de la vie, pas simplement les grandes décisions qu'on prend une fois tous les 5 ans. Non, vraiment pour le quotidien de la vie, eh ben c'est libératoire. Depuis ce jour-là, ben finalement, on fait vachement attention, parce que si on dit que ben, si jamais je dis non, c'est le coup près, on le sait que c'est le coup près. Donc je fais un peu plus attention quand je dis non à ce que me propose Maud, et inversement. Et du coup, voilà, ben, c'est juste pour la petite histoire. On essaie de finir, parce que là, on nous a mis une petite... Il reste 2 minutes.
2 minutes ?
2 minutes, voilà, 2 minutes.
Et un petit chant.
On va finir encore par notre cher Jean-Paul II. On aurait pu vous citer Benoît XVI, là, mais bon, pas tout faire. C'est par rapport... Ça rejoint, finalement, c'est la synthèse en une phrase de Jean-Paul II. Vous voyez, nous, on a besoin de faire 1h15. Lui, il fait ça en une phrase. C'est la synthèse à la fois de ce que nous avons à vivre en tant que couple... Et en tant que parents, qui sommes ministres, pas simplement des parents éducateurs, ministres auprès de nos enfants, donc avec un ministère évangélisateur, éducateur auprès d'eux. Écoutez bien et accueillez-le vraiment de la part de l'Esprit-Saint, puisque c'est Jean-Paul II qui le dit lui-même. Comme quoi notre ministère est un ministère profondément charismatique, et ancré dans la théologie de l'Église. Époux, vous devez naître de l'Esprit-Saint. Père et mère sont les premiers témoins et les ministres de cette nouvelle naissance dans l'Esprit-Saint. Vous engendrez les enfants dans leur vie humaine, mais n'oubliez pas que vous les engendrez aussi pour Dieu. On va reprendre et on va finir là-dessus. Époux, vous devez naître de l'Esprit-Saint. Père et mère sont les premiers témoins et les ministres de cette nouvelle naissance dans l'Esprit-Saint. Vous qui engendrez les enfants dans leur vie humaine, n'oubliez pas que vous les engendrez aussi pour Dieu. Tu nous fais juste prendre un petit chant pour tout ça, ça descende dans le cœur et dans notre âme.
Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas, tu resteras solitaire, ne germera pas, qui a géré.